Chapitre 22. Après 3 jours de marche, le paysage se transforma. Au bout de la falaise, une alternance de collines boisées et de prairies luxuriantes semblait s'étendre à l'infini. Gardant ses distances avec Nietzsche, Bannon passait le plus clair de son temps avec Nathan. Bien qu'il n'ait pas reparlé de l'incident, la magicienne se félicitait que son prétendant ait retenu la leçon. Nathan donnait des cours d'histoire à son disciple, ou lui faisait partager son amertume au sujet des Sœurs de la Lumière et de son incarcération au Palais des Prophètes. Les cours parurent tirés par les cheveux à Nietzsche, tout comme les anecdotes intimes du sorcier. Sans aucun moyen de trier le bon grain de l'ivraie, Bannon gobait tout avec un enthousiasme juvénile. Au moins, ça occupait les deux hommes durant un long et ennuyeux voyage. De temps en temps, Nathan ajoutait des détails à sa carte, mais il n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le 5e jour, ils aperçurent enfin une piste, trop large et trop plane pour être naturelle. En avançant, ils virent des souches là où on avait dû couper les arbres.
« Il doit y avoir des gens pas loin !»
s'écria Bannon. De fait, la piste devint un chemin, puis une route. Au sommet d'une butte, les voyageurs virent qu'une série de colonnes conduisait à une baie ronde où se jetait une rivière. Sur les deux berges se dressait un village. Assez grand, avec des maisons, des boutiques et même des entrepôts. Un pont de bois reliait les deux moitiés de l'agglomération et des quais dans la baie permettaient à de petits bateaux d'accoster. Sur un promontoire rocheux à l'autre bout du petit port, une tour de guet faisait face à l'océan. Sur les collines, on avait aménagé des jardins et des pâturages en terrasse. Sur les quais, des gens déchargeaient les bateaux de pêche et de gros filets séchaient déjà au soleil. Sur la plage, 5 grosses barques renversées étaient en cours de réparation.
« Je commençais à redouter de devoir faire le tour du monde à pied, » soupira Nathan.
« Nous allons savoir où nous sommes, » dit Nietzsche. « Ensuite, nous choisirons une direction. D'abord, nous informerons ces gens des lois universelles de Richard. Qui sait ? Quelqu'un ici pourra peut-être nous dire où est Colader. »
Tu es pressé de sauver le monde, magicienne ? »
lança Nathan.
« Autant que moi de retrouver mon don. »
Nietzsche n'esquissa pas l'ombre d'un sourire.
« J'ai toujours des réserves sur les propos de la voyante, »
dit-elle froidement. Sans relever, Nathan baissa les yeux sur sa chemise, un vrai chiffon après 2 semaines d'avanies diverses.
« Une agglomération de cette taille doit avoir au moins un tailleur, non ? Je déteste être en haillons. »
Après avoir traversé tant de terres désolées, Nietzsche se demanda si ces gens voyaient souvent des étrangers. Puis elle remarqua que d'autres routes donnaient accès au village. Ainsi, le port n'était pas le seul point de contact avec le monde de cet endroit qui semblait pourtant éloigné de tout. Avant d'entrer dans le village, les voyageurs traversèrent une colline hérissée de pierres tombales. Un cimetière. En passant, Nietzsche vit que des noms étaient gravés sur les stèles ou sur de simples poteaux de bois, si serrés les uns contre les autres qu'il devait s'agir d'une fosse commune. Devant ce spectacle, Bannon parut très mal à l'aise. Nathan laissa glisser ses doigts sur un poteau où figurait un nom illisible.
« Ces différences sont liées à des questions de classe, je suppose. » Les riches s'offrent des stèles et une tombe spacieuse, et les pauvres pourrissent dans une fosse commune.
Ou il s'agit d'un cénotaphe géant,
avança Nietzsche.
Pour les marins disparus en mer, par exemple. Je crois que c'est un mémorial pour des gens qui ne sont pas morts mais partis,
dit Bannon, lugubre.
Partis ?
Répéta Nathan.
Que veux-tu dire, fiston ?
Eh bien, des gens enlevés. « Enlevé par qui ?»
demanda Nietzsche que ses tergiversations agaçaient.
« Des esclavagistes, peut-être. »
Dérangée par cette idée, la magicienne accéléra le pas. Dans le monde du Seigneur Hall, les esclavagistes n'avaient pas de place et il faudrait régler cette question d'une façon ou d'une autre. Aux abords du village, les enfants qui jouaient dans la poussière virent 3 voyageurs qui approchaient d'une direction inhabituelle. Très excités, ils appelèrent leurs parents. Des femmes qui travaillaient au lavoir et des raccommodeurs de filets de pêche tournèrent la tête. Dans les jardins, des hommes et des femmes levèrent les yeux de leur ouvrage. Nathan épousta frénétiquement son pantalon et sa chemise.
« Pour un ambassadeur itinérant, ronchonna-t-il, je fais vraiment miteux. Heureusement, ma belle épée me distingue du tout venant. »
Bannon posa une main sur la poignée banale de son arme et ne trouva rien à dire. Nietzsche sermonna les deux hommes.
« On ne dégaine pas, sauf absolue nécessité. Nous venons informer ces gens que l'ancien monde est désormais en paix, une nouvelle qui les ravira. »
Une femme d'âge moyen, les cheveux tressés, salua de la main les voyageurs. Le petit garçon qui se tenait près d'elle les regardait comme s'ils étaient des monstres marins.
« Ils viennent du nord »
cria-t-il.
« Là-bas, il n'y a rien. »
« Bienvenue à Renda-sur-Bay, » dit la femme.
« On dirait que vous avez fait un long voyage. »«
Un naufrage, » marmonna Nietzsche.
« Et des jours de marche, »
ajouta Bannon.
« Nous sommes ravis d'avoir trouvé votre village, » fit Nathan. « Renda-sur-Bay, je vais ajouter ça sur ma carte. »
Alors que des curieux approchaient, Nietzsche étudia les humbles maisons, les bâtiments en bois très simples, les jardins et les parterres de fleurs. Les enfants, en revanche, n'avaient pas l'air affamés ou malheureux. L'activité principale des villageois semblait être de nettoyer des poissons alignés sur des tréteaux le long des quais. Au-dessus de petits feux de varech, des filets de poissons posés sur des grilles cuisaient doucement. Sur la plage, des cuves d'eau de mer s'évaporaient au soleil. Au fond, il resterait une précieuse couche de sel. Sous un bombardement de questions, Nathan et Bannon racontèrent une partie de leur histoire.
« Appelez tout le monde, » dit Nietzsche, agacé. « Comme ça, nous n'aurons pas besoin de nous répéter. »
Le chef du village, un type nommé Holden, vint saluer les voyageurs. La quarantaine, les tempes déjà grisonnantes, cet ancien pêcheur se consacrait désormais à l'administration locale. Il conduisit ses visiteurs sur la place du village où presque tous les habitants étaient déjà réunis. Sachant que Nathan adorait s'entendre pérorer, Nietzsche lui céda de bon cœur le crachoir.
« Je suis Nathan Rall, émissaire du seigneur Richard Rall, l'homme qui a vaincu l'empereur Jagang. »
Comme s'il s'attendait à des applaudissements, le sorcier marqua une pause.
« Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi l'ordre impérial ne vous opprime plus ?»
Les villageois ne réagirent pas.
« Nous avons entendu parler de Jagang, » dit Holden, « mais ça fait bien 30 ans que nous n'avons vu ni soldat ni émissaire de l'ordre impérial. »
Bannon jugea utile d'intervenir.
« Nous sommes partis de Tanimura, sur le randonneur des vagues du capitaine Eli Corwin. Des Selkas nous ont attaqués, tuant l'équipage, puis le navire s'est fracassé sur des récifs. Depuis le naufrage, nous n'avions vu personne. »
Plusieurs villageois parurent horrifiés et fascinés par ce récit. D'autres restèrent sceptiques, comme s'ils soupçonnaient les trois survivants d'avoir des raisons d'enjoliver leur histoire.
« La nouvelle essentielle que nous vous apportons, » intervint Nietzsche, « c'est que le seigneur Rall a vaincu tous les tyrans. » « Désormais libre, vous n'avez plus à craindre qu'on vous opprime ou qu'on vous réduise en esclavage. Dans le processus de consolidation de son empire, le seigneur Rall réunit des émissaires afin que soient établies des lois communes que tout le monde respectera. Le début d'un âge d'or pour l'humanité. »
La magicienne croisa les bras.
« Et vous en ferez partie. »
Rayonnant, Nathan se tourna vers les villageois.
« Vous avez des cartes et vous connaissez la région. » « Choisissez des représentants qui iront dans le Nouveau Monde, en Dara, et qui pourront s'entretenir avec le seigneur Rall. Soyez sûr qu'il vous fournira tout le soutien et toute la protection dont vous avez besoin. Nous sommes à un moment clé du développement d'un nouvel empire. »
Holden semblait enclin à hocher la tête pour prouver à ses interlocuteurs qu'il les écoutait. Cela dit, il ne paraissait pas convaincu.
« Ce sont de bonnes nouvelles et je suis content d'apprendre les exploits de votre seigneur Rall. Ici, nous commerçons avec d'autres villages et de grandes villes au sud, et nous avons à peine entendu parler de Tanimura ou de Dara. Merci de nous apprendre que nous sommes libres, mais tous ceux qui nous menacent en sont-ils informés ?»«
Ils le seront bientôt, » affirma Nietzsche.
Holden écarta les mains en signe d'apaisement.
« Votre seigneur Rall est bien trop loin pour avoir une influence sur nos vies. Comment un Daran pourrait-il nous aider depuis l'autre bout du monde? Ici, on se débrouille contre tous les dangers. »«
Il vous protégera, »
assura Nietzsche. D'expérience, elle savait qu'il ne fallait jamais sous-estimer Richard. Holden sourit et n'insista pas.
Quoi qu'il en soit, ce sont de bonnes nouvelles et vous êtes les bienvenus chez nous. Comme vous semblez avoir tout perdu, nous vous aiderons de notre mieux.
Un bon repas ne serait pas de refus, dit Nathan.
Et de nouveaux vêtements. Vous avez un tailleur. Il me faudrait plusieurs tenues.
Des vivres et de l'équipement seraient également appréciés, ajouta Nietzsche. Nous sommes en route pour Colader, si ça vous dit quelque chose.
Les villageois ne parurent pas inspirés par ce nom. En revanche, ils proposèrent spontanément leur aide.
Ce soir, dit Holden, nous organiserons un dîner de bienvenue. En cette saison, la pêche aux perches est fabuleuse. Nous en avons assez pour un banquet.
Votre hospitalité nous touche, et un festin sera un vrai bonheur. Et pour un tailleur.
Le soir, les villageois disposèrent de longs tréteaux sur la place des fêtes, non loin des quais. En plus de la lumière de toutes les fenêtres des maisons, des torches éclaireraient le site. Pour l'esthétique, des bougies brûlaient sur les parapets du pont de bois. Au crépuscule, les festivités commencèrent. Salées et assaisonnées avec des épices, de grosses perches rôtissaient sur des feux. Des légumes mijotaient dans des chaudrons et il y avait aussi au menu une salade composée d'étranges fleurs amères. Nietzsche apprécia la chair noire des perches, presque aussi savoureuse que de la viande. Après deux assiettes, Bannon se lança dans une grande conversation avec ses compagnons de table. Fasciné, ils l'écoutèrent énumérer tous les plats qu'on pouvait préparer avec des choux. Nathan paradait dans une splendide chemise grise. La couleur le défrisait un peu, mais c'était quand même mieux que son ancien chiffon.
« Merci beaucoup, cher Jan, »
dit-il à une petite femme brune au visage ordinaire mais aux très beaux yeux. Une des couturières du village, qui fournissait une bonne partie de la population.
« Mes tailleurs à Tanimura proposaient une infinité de modèles, de coupes, de qualités de tissus. Mais aucun n'était aussi gentil et joli que toi. »
Jan en gloussa d'aise.
« Remercie Philippe, mon mari, » dit-elle. « Cette chemise était pour lui. »
Le type, aux larges épaules, assis à côté de la couturière, hocha la tête. Presque aussi grand que Nathan, les cheveux noirs bouclés, il arborait une cicatrice sur le nez. Quand le sorcier lui demanda d'où il la tenait, il évoqua la rupture d'une ligne de pêche et le vol malencontreux d'un harpon.
« J'ai beaucoup de chemises, » dit-il, « et maintenant je peux claironner que l'ambassadeur itinérant du seigneur Rall s'habille chez ma femme. »
L'énorme main de Philippe se referma sur celle de Jan, beaucoup plus délicate. Puis il prit une nouvelle bouchée de perche.
« J'adore dévorer des poissons que je n'ai pas pêchés. Pour moi, ce temps-là est révolu. »
Jan crut bon d'ajouter quelques explications.
« Philippe était un très bon pêcheur, mais il préfère s'occuper des bateaux. Dans son nouveau chantier naval, il en répare plusieurs. »«
Et j'en ai un en construction, » ajouta Philippe. « Il s'appellera le Dame Jan. »
« Un nom qui fera augmenter son prix, » dit Nathan.
À la fin du repas, Holden se leva et les conversations cessèrent aussitôt.
« Nous avons accueilli nos visiteurs, leur donnant ce que nous pouvions leur offrir. Espérons que Mère la Mère se souviendra de notre générosité. »
Au milieu des vivas, Nietzsche entendit quelques villageois ronchonner, comme s'ils trouvaient que Mère la Mère leur avait un peu trop souvent fait défaut. Renda sur Bay, s'avisa-t-elle, n'avait pas de garde, pas de soldats et aucune défense. Quand on se fiait aux dieux pour se protéger, elle le savait, on se retrouvait à la tête de problèmes insolubles. Se levant soudain, des villageois désignèrent le port obscur. Sur la tour de guet, un feu signalait un danger. Quand Holden le vit, il se décomposa. Au-delà du port, Nietzsche distingua les proues menaçantes de quatre navires qui fendaient l'eau à une vitesse incroyable.
« Où est la protection de votre seigneur Rall à présent ?» demanda Holden.
« Devant toi, »
répondit Nietzsche en se levant.